Bienvenue sur Fréquence Mistral, il est 16h35, vous êtes sur 99.3 et on retrouve exceptionnellement l'émission Pour la Dignité, animée et proposée par Régis Coulange pour Amnesty International. D'habitude c'est le lundi soir, le dernier lundi du mois, mais exceptionnellement on a fait une petite entorse et c'est aujourd'hui mardi 25 juin. Et aujourd'hui Régis, un invité.
Oui, alors aujourd'hui un invité... Pierre, qui fait partie du groupe d'Amnesty de Digne, qui est Amnesty depuis très longtemps, et qui est un peu spécialiste de la question de l'esclavage. Hein. L'esclavage qui est aboli par tous les pays, mais qui, malgré tout, perdure encore dans un certain nombre de pays. Donc il nous en parlera en deuxième partie d'émission. Et en première partie d'émission, je vais vous parler du thème de la peine de mort, puisque je reviens du congrès mondial contre la peine de mort qui s'est tenu à Madrid, du 12 au 15 juin. Et donc c'était une occasion formidable de rencontrer des abolitionnistes du monde entier. Et donc je vais vous parler un petit peu de ces impressions de ce cinquième congrès contre la peine de mort. Et en introduction, donc on va écouter une musique et une chanson de John Baez qui a été reprise par Moustaki, Marche de Sacco et Vanzetti. Donc c'est deux Américains d'origine italienne qui ont été condamnés à mort et exécutés pour un crime que vraisemblablement ils n'avaient pas commis. Et ça avait fait d'ailleurs une indignation mondiale déjà à l'époque, c'était en 62.
Voilà, on avait fait un film aussi.
Il y a eu un film
sûr,
aussi. Mais... Ouais. Voilà, donc on écoute cet hymne.
Vous dormez au fond de...
retrouve Régis pour l'émission Pour la dignité. Régis Coulange.
Voilà, donc je me suis rendu à Madrid pour le 5e congrès contre la peine de mort. Donc je représentais Amnesty International dans cette manifestation qui rassemble tous les abolitionnistes du monde. Et en effet, le monde était au rendez-vous à Madrid, puisqu'il y avait des représentants de tous les continents, des Chinois, Taïwan, Amérique du Sud, Amérique du Nord, beaucoup d'Africains, et des Européens aussi, bien sûr. Et puis, des personnalités, alors bien sûr, des ministres des Affaires étrangères, des pays qui ont soutenu le congrès, hein, dont l'Espagne, bien sûr, puisque c'était à Madrid, la France, la Suisse, la Belgique, et beaucoup d'ambassadeurs, des prix Nobel de la paix. Hein, nous avions 3 prix Nobel de la paix, dont l'Iranienne Shirin Ebadi, puis Mairead Maguire aussi, qui est d'Irlande du Nord. Desmond Tutu n'a pas pu venir, mais il nous a fait un message vidéo. Voilà, et puis aussi des anciens prisonniers condamnés à mort qui ont été innocentés avant d'être exécutés et qui ont pu venir témoigner, et puis des familles aussi de condamnés à mort, parce que cette condamnation, cette peine de mort, c'est une torture pour la personne qui est condamnée, mais c'est aussi une torture terrible pour les proches, pour les familles. Et voilà, et tout ce monde, on était 1500 à peu près, parlant toutes les langues, avec une seule volonté commune, faire un monde sans peine de mort. Voilà, supprimer cette barbarie qui perdure encore dans les faits, dans les textes aussi de certains pays. Alors pour parler un peu de l'état de la peine de mort, ça avance quand même beaucoup hein, depuis 50 ans, puisqu'il y a 50 ans, il y avait très peu de pays qui l'avaient aboli. Maintenant, il n'y a plus que 48 pays qui pratiquent la peine de mort. Bon, c'est encore énorme. Mais sur 198 pays, ça fait plus qu'un tiers. Les deux autres tiers, donc il y a des pays qui l'ont aboli en droit, c'est-à-dire c'est dans leur constitution. Ils ont signé le deuxième protocole facultatif additionnel au pacte international civil et politique, qui exclut la peine de mort. D'autres sont abolitionnistes de fait, parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont plus utilisé la peine de mort. Mais c'est encore dans le texte, donc on fait un travail pour qu'ils signent ce deuxième protocole. Et beaucoup de pays aussi ont signé, à la demande de l'ONU, un moratoire sur les exécutions, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à ne pas exécuter les personnes qui sont dans les couloirs de la mort. Donc il y a beaucoup de pays qui signent ce moratoire. Voilà. Donc
c'est-à-dire un moratoire, normalement, il y a un délai, non ?
C'est pas... Un moratoire, c'est... Voilà, on s'engage à ne pas exécuter, à faire une pause... Pour...
Tant que un procès n'a pas été fait ou comment ?
Non, c'est-à-dire que les personnes condamnées, si on signe le moratoire, on ne les exécutera pas. Voilà. Mais un pays peut revenir sur son moratoire, ne plus le signer. Donc voilà, ça fait une petite tranquillité, entre guillemets, pour les gens qui sont dans le couloir de la mort. Mais l'objectif c'est de supprimer cette peine. Qui en fait est une torture, la torture suprême. Hein. C'est une atteinte, donc c'est en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est en contradiction avec les textes de l'ONU et qui dit dans l'article 2 notamment le droit à la vie. Et puis aussi le droit à ne pas subir de traitements inhumains, cruels et dégradants. Et la peine de mort, c'est un traitement cruel, inhumain et dégradant. Surtout quand on a les témoignages de gens qui ont vécu dans le couloir de la mort et qui nous disent quelle torture c'est savoir.
Oui, on peut être des années dans le couloir de la mort, non ?
On peut être des années. Oui, il y a des gens qui sont des années et des années dans le couloir de la mort Et chaque jour, il se demande si ça ne va pas être ce jour-là. Oui. Hein, c'est des conditions terribles, et pour les familles aussi, pour les proches, c'est une torture. C'est une barbarie quoi, qui remonte à la nuit des temps. Et dans notre société civilisée, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Voilà. Donc, l'ambiance était très chaleureuse. C'est vrai qu'on était tous avec... venant de civilisations très différentes, mais avec les mêmes aspirations, finalement. Hein. Et ça montrait bien aussi l'universalité des droits humains. Hein, c'est pour tous les hommes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est pour tous les êtres humains, où qu'ils se trouvent, et tous aspirent à pouvoir vivre dignement et en respectant leur vie et leur intégrité physique. Voilà, donc c'était très intéressant. On a eu bien sûr des plénières, c'est-à-dire tous ensemble en écoutant des intervenants, et puis on a eu différents tables rondes avec des groupes plus petits où on pouvait un petit peu intervenir. Il y a eu de nombreux témoignages. Je vais peut-être vous lire une lettre de Mumia Abu Jamal, qui est un des condamnés à mort les plus célèbres, qui manifestement est innocent, mais ça fait très longtemps qu'il est en prison. Je vais vous en lire un petit passage pour vous montrer la torture que peut représenter pour un prisonnier cette attente. Ouais. Au milieu de l'obscurité, cette petite était un rayon de lumière. Toute petite, elle était, avec une voix de Minnie la souris. Cette fille de mon esprit avait enfin fait la longue expédition vers l'ouest, jusqu'aux entrailles de l'enfer situé au milieu de nulle part, dans le centre de Pennsylvanie. Comme mes autres enfants, elle n'était qu'un bébé lorsque j'ai été dans cet enfer. À cause de sa jeunesse et de sa sensibilité, jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas amenée lors des visites familiales. Elle a fait irruption dans la salle exiguë, ses yeux marrons brillants de bonheur. Elle s'est arrêtée, étonnée, en voyant la barrière vitrée entre nous. Elle a éclaté en larmes face à cette arrogante tentative de l'État pour nous séparer. En quelques fractions de secondes, sa tristesse et son choc se sont transformés en fureur et ses petits doigts se sont pliés pour former des poings serrés qui frappaient, cognaient contre la barrière en plexiglas. Celle-ci a été secouée, appoyée, mais ne s'est pas brisée. « Casse-la, casse-la !» hurlait-elle. Sa mère, retrouvant sa lucidité après le choc, a entouré Amida de ses bras et de ses sanglots. Les ont secoués toutes les deux. Mes yeux se sont remplis de larmes, mon nez s'est bouché. Ces mots non prononcés faisaient écho dans ma conscience. Pourquoi je ne peux pas l'embrasser? Pourquoi je ne peux pas lui faire de bisous? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur ses genoux? Pourquoi on ne peut pas se toucher? Pourquoi? Je me suis détourné de son regard pour récupérer. Voilà, ensuite, je raccourcis un petit peu sa lettre, et puis, voilà, je lui ai rappelé comment elle avait l'habitude, toute petite, de serrer le chat dans ses bras en manquant de l'étrangler, et ses dénégations se muaient en rire. À trois, nous échangeons des idioties, et en quelques minutes, notre temps de visite s'est épuisé. Son sourire revenu, elle a récité un poème de départ que nous avions l'habitude de nous réciter par téléphone. Nous avons ri tous les trois et elles sont parties. Plus de 5 années se sont écoulées depuis cette visite, mais je m'en souviens comme si elle s'était passée il y a une heure. Les coups violents de ses petits poings contre cette barrière si laide, sa rage instinctive contre ce barreau étatique érigé sous prétexte de sécurité, ses chaudes larmes, ce souvenir me hante. Voilà, donc ce texte pour montrer quelle torture c'est pour les proches et notamment pour les enfants de même pas pouvoir toucher son père. Voilà. J'ai aussi fait la rencontre de Sandrine Skinner. Alors Sandrine Skinner, c'est une femme qui écrivait à des condamnés à mort. Et puis elle s'est mise à écrire à Hank Skinner, qui est un condamné à mort américain. Ça fait 18 ans qu'il est dans le couloir de la mort. Et ça fait 4 fois qu'il a une date d'exécution. Et bon, visiblement, manifestement, il est innocent du crime qu'il a dont on l'accuse du triple crime. Le problème, c'est qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit, puisqu'il était dans cet appartement où a lieu le crime, de l'assassinat de sa compagne et de ses deux enfants. Alors, j'ai discuté avec elle parce que j'avais lu son livre. Elle a fait un livre qui s'appelle « Entre nos lignes, lettre à Hank », qui est en fait une longue lettre. Il n'y a pas de chapitre, c'est une seule lettre, tout le livre, où elle raconte donc ses échanges de courriers d'abord, ce sentiment partagé d'être très proches l'un de l'autre, jusqu'à tellement proches qu'ils ont fini par se marier. Ils se sont mariés, mais ils ne se connaissent qu'à travers une vitre. Ils ne se sont jamais touchés. C'est terrible. Mmh. Et en même temps, il y a de l'espoir, puisqu'elle a enfin obtenu, ils ont enfin obtenu, après des années de demandes, que des tests ADN soient faits sur les pièces qui avaient été récoltées juste après le meurtre. Bon, il y a une des pièces principales qui a disparu, mais voilà, donc ils se raccrochent à cet espoir et ben on espère que avec eux que ça va marcher, que la justice va être juste et va le libérer et qu'il puisse enfin se trouver vraiment. Voilà, et puis bon, ben je vais pas tout vous raconter, mais Robert Badinter était présent et donc il est intervenu plusieurs fois en plénière et puis dans des tables rondes et bien sûr à la cérémonie de clôture, donc où il a redit son combat contre la peine de mort, qui en fait c'est un petit peu lié à Amnesty International, puisque en 1977, quand Amnesty a eu le prix Nobel de la paix, Robert Badinter était à Amnesty et il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait à l'occasion de ce prix Nobel, et on a décidé de lutter pour l'abolition de la peine de mort. Et c'est un peu à partir de cette date qu'il y a eu ce mouvement abolitionniste qui est devenu de plus en plus fort.
Certes, 1977.
En 1977. Bien sûr, avant, il y avait eu des grands écrivains, hein, comme Victor Hugo ou Camus, entre autres, qui s'étaient levés contre cette peine de mort. Mais ça a été, chaque fois, Badinter, quand il parle de ce sujet, il revient à cette date de 1977, prix Nobel de la paix d'Amnesty, et ce choix de lutter de toutes nos forces pour l'abolition de la peine de mort. Voilà, ensuite, bien sûr, il a reparlé de l'abolition en 1981, du courage politique qu'il a fallu avoir du candidat à l'élection présidentielle, hein, quand, juste après un sondage qui avait eu lieu dans un grand journal de droite où on disait que 60% des Français étaient pour la peine de mort, à la question si vous êtes élu, abolirez-vous la peine de mort, François Mitterrand a dit oui sans hésiter. Et je pense que c'est après avoir aussi beaucoup discuté avec Robert Badinter qui avait ce combat cheville au corps. D'ailleurs, il a une aura très importante. C'est un peu comme le père de tous les gens qui étaient présents, hein. Peut-être le grand-père aussi, puisqu'il est plutôt jeune, mais beaucoup d'humour. Et quand il parle, c'est d'une clarté. Et il dit que finalement, la peine de mort, toutes les études l'ont prouvé, ça ne sert à rien, absolument à rien. Les pays qui l'ont aboli, qui le pratiquent encore, n'ont pas vu leur criminalité baisser. Il suffit de vous citer les noms des pays, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est important de donner comme argument celui-ci. Peut-être pas tellement au niveau moral, etc., mais leur dire, écoutez, voilà, vous êtes les États-Unis et vous êtes avec le groupe de la Chine, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite. Voilà, vous êtes dans ce groupe-là parce que vous utilisez la peine de mort. Voilà, parce que bon, on a dit tous les arguments, le risque bien sûr très grand d'exécuter un innocent. la torture que ça représente, la vengeance que c'est, plus que de la vraie justice. Aucune possibilité, bien sûr, pour la personne condamnée à mort de se racheter, de regretter, de se réhabiliter, de compenser. De, voilà. Donc, c'est terrible. J'ai appris aussi que dans certaines prisons aux États-Unis, les gardiens du Ku Klux Klan, qui existent encore, s'arrangeaient pour se retrouver en même temps, au même service, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent sur les condamnés à mort. Donc, vous voyez, c'est vraiment une horreur. Et voilà, donc... Badinter nous a dit qu'il pensait que, bon, peut-être qu'il ne le verrait pas lui, mais que ses enfants, ses petits-enfants, verraient un jour un monde sans peine de mort. Voilà. Et. excusez-moi. Et donc. Et il nous a dit, bon, nos petits-enfants se demanderont, mais pourquoi vous avez gardé cette horreur aussi longtemps, enfin. Je crois qu'ils n'en reviendront pas de qu'on ait pu, en effet, garder cette barbarie aussi longtemps. Voilà, alors, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue, qui va nous parler un petit peu d'esclavage, une autre barbarie, bien sûr. Et peut-être qu'on va écouter la chanson de Cabrel, 100 ans de plus, qui parle justement de l'esclavage.
Oui.
Cent ans dans la peau de l'esclave, et juste après, 100 ans de plus. Chercher des miettes sous les tables, avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches, chanter seulement le dimanche. Oh, tu vois la femme noire dans le rôle de la bonne, avec tout à côté, tout tordu son bonhomme. Après ça, faut pas que tu t'étonnes, c'est eux qui ont fait. Qui ont fait Son House et Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Bien rouge le sang de l'Afrique sur la jolie fleur du coton. La toute nouvelle Amérique, la belle démocratie, welcome. Bateau déportant les villages, au bout de l'immense voyage. Oh, gravé dans la mémoire, pour des années-lumière, chaque larme d'ivoire et chaque collier de fer. Après ça, faut pas que tu t'étonnes, c'est eux qui ont fait, eux qui ont fait Son House et Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Toujours plaire aux marchands de fantômes,
eux qui ont fait,
elle qu'on achète et lui que l'on donne,
eux qui ont fait,
naître avec la peine maximum,
eux qui ont fait,
mais toujours vivant dans ce que nous sommes,
eux qui ont fait,
le peuple interdit du reste des hommes. Cherchant le bleu de l'ancien royaume,
eux qui ont fait,
c'est eux qui ont
fait, faut pas que ça t'étonne.
Eux qui ont fait
Son House et Charlie Patton. Marine et Robert Johnson. Howling Wolf et Blind Lemon. Son House et Charlie Patton. Toujours plaire aux marchands de fantômes. Elle qu'on achète et lui que l'on donne. Naître avec la peine maximum. Toujours vivant dans ce que nous sommes. Le peuple interdit du reste des hommes. Cherchant le bleu de l'ancien royaume.
Eux qui ont fait,
c'est eux qui ont fait, faut pas que ça t'étonne.
Eux qui ont fait,
Son House et Charlie Patton.
Voilà, vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 dans l'émission Pour la dignité, habituellement le lundi soir, mais aujourd'hui c'est mardi. Et un invité de Régis Coulanges pour parler d'Amnesty. Vous êtes Pierre Souhaité, membre d'Amnesty également, mais spécialiste dans l'esclavage.
Oui, bonsoir à tous. Spécialiste, c'est un grand mot, mais disons que je m'y suis particulièrement intéressé. Après plusieurs séjours aux Antilles, où j'ai pu travailler avec l'université d'Antiguyane, au sein d'Amnesty, pour essayer de faire valoir un devoir de mémoire qui est, on va dire, pratiquement ignoré en métropole. On en parle très peu. Je vais vous dire pourquoi bientôt. Alors pourquoi un devoir de mémoire ? Moi je prends une citation simplement de Stéphane Hessel, maintenant tout le monde connaît Stéphane Hessel, décédé depuis peu. Et il dit « C'est la mémoire qui fait l'homme et l'extinction de cette mémoire, c'est sa domination ». Et là on est en plein dans un devoir de mémoire, pour différentes raisons, ne serait-ce que déjà par le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 4. Très exactement, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, etc. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire l'esclavage, c'est une histoire ancienne, c'est du passé, n'en parlons plus, il faut faire l'avenir, il faut et ainsi de suite. Bon. D'une part, il y a deux contre-vérités. D'une part, parce que l'esclavage dit moderne existe toujours. Régis vous en a touché deux mots tout à l'heure. Il pourra peut-être vous en parler. Il vous en a peut-être parlé déjà précédemment, mais il pourra peut-être mieux vous en parler une autre fois, parce que c'est très complexe. Il y a divers volets. Et ensuite, l'esclavage historique ancien, qui n'est pas du passé. La psychologie nous enseigne deux choses. C'est que, aussi bien chez un homme et une femme, ou pour une société, le fait de ne pas connaître son passé engendre des problèmes au présent. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, des gens qui ont des gros problèmes dans leur vie au présent parce qu'ils méconnaissent totalement leur passé. Et si vous ne pouvez pas, gérer votre présent ou le comprendre, vous ne pouvez pas penser au proche avenir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour bien comprendre, déjà, c'est une base. Deuxièmement, il faut comprendre que l'esclavage ancien des Africains qui a touché 12 millions d'Africains qui ont été déportés dans les Amériques, hein, c'est-à-dire les Antilles, le sud des États-Unis, l'Amérique centrale, enfin ainsi de suite. Il y a une différence avec les Européens. Pour les Européens, nous, les ancêtres, ma foi, ça se borne à quoi ? Ça se borne à nos grands-parents. Dans le meilleur des cas, à nos arrière-grands-parents, ça ne va pas plus loin.
Hein. Oui, c'est vrai.
Après, les recherches généalogiques et ainsi de suite et tout, bon, c'est un peu par curiosité du folklore et tout. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Par contre, pour les gens d'origine africaine, en l'occurrence les Antillais, par exemple, eh bien, l'esprit des ancêtres est toujours là. L'esprit des ancêtres est toujours là. C'est très important, il faut comprendre ça. Et la souffrance des ancêtres est toujours là. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ces gens. Voyez-vous ? Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, dans notre histoire très récente, sous la présidence de Jacques Chirac, il a été demandé de faire un comité. Un comité, parce qu'il était très sensible à ça, et a été créé le comité pour la mémoire de l'esclavage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les... Voilà. Et ensuite, il y a eu un rapport qui a été remis en 2005 au Premier ministre. Alors, je vais vous citer quand même quelques passages de la préface qui est très important, vous allez voir. Alors, voilà. Monsieur le Premier ministre, voilà, je passe. « Ces propositions sont de nature à faire en sorte que la mémoire partagée de l'esclavage devienne partie intégrante de la mémoire nationale. De nos travaux, le constat suivant peut être établi. Il existe une forte attente au-delà de tous les clivages dans l'esprit de la loi du 21 mai 2001. » On y reviendra tout à l'heure. Cette attente s'explique par le fait que la très grande majorité de nos concitoyens du monde issus de l'esclavage sont convaincus que, malgré la loi du 21 mai 2001, l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage, de leur abolition continue d'être largement ignorée, négligée, marginalisée. Ces concitoyens perçoivent cet état de fait comme un déni de leur propre existence et de leur intégration dans la République. En tant que citoyens, ils demandent que soit reconnu un passé qui a modelé non seulement leur société, mais aussi la France dans son ensemble. Mais ça, on pourra y revenir largement. Leur histoire n'est pas prise en compte. L'esclavage reste une question mineure dans l'histoire et, la mémoire, et les mémoires nationales. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais c'est le devoir de tous ceux qui exercent une responsabilité d'être clairvoyants, d'avoir un discours sans ambiguïté et des actes forts qui manifestent la volonté de la République française pour aborder cette page honteuse de son histoire. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi du 21 mai 2001. Eh bien, voilà, cette loi, l'article 1er dit ceci. « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et l'esclavage perpétré à partir du XVIe siècle contre les populations africaines déportées par l'Europe aux Amériques et dans l'océan Indien constitue un crime contre l'humanité. » Donc à partir de 2001, on a mis le temps, mais la France a reconnu que c'était un crime contre l'humanité.
Seulement 2001.
Seulement 2001. Vous voyez comme les choses sont très longues. Le 10 mai, alors dans la foulée, hein, il y a eu un tas de choses qui se sont passées, et le 10 mai est reconnu comme la journée de commémoration en France de l'abolition de l'esclavage. C'est aussi très, très récent. Voilà. Alors, cet esclavage, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de, à la fois délicat et complexe. Parce que, on ne va pas revenir sur l'esclavage vraiment antique, hein, bien que cela a eu une influence. On pourra en parler légèrement, une influence sur les esprits à partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, hein, puisqu'ils sont allés rechercher un philosophe particulièrement et des citations pour justifier l'esclavage. D'accord ? Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, et on en a parlé l'autre fois, ça date de quelques mois, en décembre, où des professeurs du lycée d'Amilnel nous ont demandé de venir faire un exposé, c'est-à-dire le groupe d'Admistie. Il y avait la secrétaire du groupe, Marie-Dominique Blanc et moi-même, sur leur demande, ils voulaient qu'on fasse un exposé à la fois sur la torture et l'esclavage. Alors la torture, elle s'en est occupée, je me suis occupé de l'esclavage, et selon leur dire, c'était pour remettre les pendules à l'heure. Donc on a commencé à parler de ça et tout. Là, on a vu, pour les classes de terminale et première, on a vu les énormes lacunes qu'ont les élèves, puisque c'est pratiquement pas enseigné, mais ils avaient quand même quelques petites connaissances. Et moi-même, j'ai été étonné sur un point. Ils connaissaient, et c'est capital pour comprendre l'esclavage des Africains, la controverse de Valladolid, qu'on connaît aussi sous le nom de confrontation de Valladolid dans 1550 et 1551. Ils connaissaient, pas dans le fond, mais ils connaissaient. Ils savaient qu'il s'était passé quelque chose. Alors l'explication, on est obligé d'en parler, sans quoi on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, les Espagnols sont en pleine conquête des Amériques. Ils sont partout, d'accord ? Et ils se retrouvent avec les Indiens. Alors, avec les Indiens, quoi en faire ? Bon, déjà, ils les ont spoliés. Alors, ils les ont spoliés pour les spolier et se donner une justification à spolier leurs terres. On est allé chercher le droit romain, d'une part. Ça commence comme ça. Ensuite, ils ont essayé de les mettre en esclavage. Mais, d'ailleurs, des Espagnols sont revenus dès les premières années de 1500, en 1501 ou 1502, ils sont revenus avec 500 esclaves en Espagne. Et la reine Isabelle a respecté ce que disait l'Église, ou tout au moins les pères de l'Église, et les a libérés. Mais ça n'a pas été plus loin parce qu'elle est morte. Elle est morte de 2 ou 3 ans après, hein, d'accord ? Alors, quoi faire des Indiens ? Donc, on ne peut pas les mettre en esclavage. Mais voilà, il fallait les terres, on prend les terres, quoi en faire ? Alors, bon, il y a des massacres, énormément. Et puis, tout d'un coup, il y a deux parties. Dans l'Église, il y a deux parties. Vous voyez que l'Église n'est pas monolithique. Hein. Mmh. Il y a eu des luttes énormes. Il y a ceux qui sont du parti des colons et des militaires, dont un théologien et évêque espagnol. Et puis, il y a les défenseurs des Indiens. Alors, le plus célèbre parmi eux, c'est Bartolomé de Las Casas, qui est, enfin, pour moi et pour certains défenseurs des droits de l'homme, un monument de l'humanité, parce qu'il a vraiment risqué sa vie. Et il a pris conscience. Avant lui aussi, il y en avait qui avait un moine Cordoba qui a fait un célèbre discours dans la cathédrale Saint-Domingue où il a vraiment massacré les colons. Et là, Bartolomé de Las Casas, qui était moine, évêque, ça l'a vraiment frappé. Et en plus, par la suite, il a vu des choses qui l'ont complètement horrifié. Il a vu les premiers massacres des Indiens à Cuba, d'une façon systématique. Et il a pris leur défense. Il est devenu vraiment leur défenseur, avec naturellement d'autres, hein, des franciscains notamment. Mais sa tête était mise à prix. Il a échappé plusieurs fois à des attentats, hein. Il s'en est bien tiré. Et pour défendre les Indiens, il a fait plusieurs traversées entre l'Espagne et puis les Caraïbes et l'Amérique centrale. Il a subi 3 naufrages, c'est pour vous dire. Et on se retrouve à la controverse de Valladolid. Il a 76 ans, le bonhomme, en 1550, pour défendre les Indiens. Et fort heureusement, il a avec lui un grand théologien espagnol, dont je pourrais vous citer le nom si ça intéresse quelques personnes. Je vais le retrouver. Francisco de Vitoria, qu'on nomme le Socrate espagnol, qui alors lui, il pourfend les justifications d'esclavage, il pourfend les idées de guerre juste qu'on a tirées d'Aristote, et puis il pourfend même le baptême forcé sur les Indiens. C'est pour vous dire. Alors là, il y a eu une grande bagarre en Espagne qui a duré 2 ans. Et puis, une bonne fois pour tout, l'Église a dit, voilà, les Indiens, ce sont des êtres humains comme les autres. Ils sont doués de raison, parce que la raison à cette époque-là était capitale. L'âme aussi, bon, c'est secondaire. Alors la raison, c'est les Africains, on a pu les mettre en esclavage aussi parce qu'on a expliqué que c'était des êtres de peu de raison ou même sans raison. Donc les gens sans raison sont des gens, on peut pacifier, ils sont dangereux, il faut s'en méfier et ainsi de suite. Voilà. Donc les Indiens, on n'y touche plus. On ne peut pas les mettre en esclavage, c'est des êtres humains. D'accord. Mais les colons, ils ont dit, bon, naturellement, eux, ils n'ont pas écouté l'Église ni rien du tout. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces Indiens? On a leur terre, ainsi de suite. Bon, bah, ils les ont massacrés, pour la plupart. Donc, c'est à la fois une victoire, mais une défaite. Et une défaite aussi pour ces gens qui ont vraiment... penser leur vie à défendre les Indiens, c'est que naturellement, ils ne pouvaient pas penser durant une seconde que immédiatement après, les colons auraient l'idée, ne pouvant pas mettre les Indiens en esclavage, d'aller chercher par tous les moyens des gens pour devenir esclaves, c'est-à-dire des bras, c'est-à-dire les Africains. C'est comme ça que l'esclavage a commencé. Donc il faut bien comprendre ça, c'est capital.
Voilà. Donc c'était en 1550.
Alors la controverse de Valladolid, ou confrontation de Valladolid, c'est 1550 et 1551. Voilà. D'ailleurs, il y a eu une pièce de théâtre qui a été faite il y a déjà plusieurs années. Il y a eu un livre aussi de fait, et une pièce de théâtre avec Marielle, Jean-Claude Brialy, ainsi de suite. Quelque chose de très brillant. Hein. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du XVIe siècle, eh bien, la traite commence progressivement à des dates différentes. Donc, il faut savoir que ils sont allés pour justifier l'esclavage. Je vous parlais du droit romain pour avoir justifié la spoliation des terres des Indiens. Pour justifier l'esclavage, on est allé chercher Aristote. Alors, bon, c'est pas moi qui le dis, mais certains philosophes vous diront qu'Aristote est un des plus grands fléaux de l'humanité. Faut pas trop le dire, parce que, bon, Aristote, c'était quand même un fondement de notre système de pensée, mais de notre système de pensée à partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il faut savoir qu'avant, auparavant, toute l'Église était platonicienne, non pas aristotélicienne. Aristotélicienne, elle le devient à partir de Thomas d'Aquin. D'accord ? C'est très important. Alors, ils sont allés chercher Aristote, qui, naturellement, enracine l'esclavage dans la nature. Vous trouvez un texte, par exemple, dans Politique. Il est donc évident qu'il y a par nature des gens qui sont les uns libres, les autres esclaves, pour qui la conviction servile est à la fois avantageuse et juste, et dont, par suite, l'asservissement se légitime en lui-même. Voilà. Donc, bon, on pourrait parler longuement de ça, hein, toutes les justifications qui sont allées chercher. Alors, tout s'est mis en place comme ça. Et puis, pour la France, naturellement, cela concerne tous les pays colonialistes européens, parce que, bon, tout à l'heure, on voyait dans la loi, on parle de l'Europe. Mais en fait, ce n'est pas toute l'Europe qui a été esclavagiste. Les Scandinaves n'ont pas été esclavagistes. Les gens les pays d'Europe centrale qui n'avaient pas de marine, c'est lié, hein, n'étaient pas esclavagistes. La Grèce n'a pas été esclavagiste. Hein. Donc c'est plutôt toute l'Europe de l'Ouest, hein, depuis l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, j'en oublie peut-être. Enfin voilà. Donc grosso modo. Alors pour la France, tout se met en place. Et donc, nous avons quelque chose de très important pour nous, Français, pour connaître mieux notre histoire, avec Louis XIV. Alors, Louis XIV, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certainement. Les lycéens nous avaient dit qu'ils connaissaient, mais on ne leur a pas enseigné, le fameux Code Noir. Et Marie-Dominique Blanc, la secrétaire, avait fait des tirages du Code Noir et leur avait apporté pour qu'ils puissent l'étudier. Alors, il est quand même très important, Code Noir de 1685, qui a été fait par Colbert et signé par Louis XIV. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de très bien codifié. Tout est très bien codifié. Même l'horreur, puisque tout à l'heure, Régis, on parlait de la torture, on parlait de la peine de mort, mais par exemple, dans l'article 38, vous trouvez que l'esclave fugitif, qu'on appelle aux Antilles les nègres marrons, ou le marronnage, pour dire, voilà, eh bien, l'esclave fugitif aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur l'épaule, premièrement. S'il récidive, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et à la troisième fois, il sera puni de mort. Voilà. En fait, c'était codifié, mais en fait, toutes les tortures et ainsi de suite, tout était pratiquement permis. Tout était pratiquement permis. Je pense qu'on est allé au sommet de l'horreur en ce qui concerne l'esclavage à Saint-Domingue, parce qu'à cette époque-là, la partie de l'île de Saint-Domingue était partagée en deux, une partie espagnole et une partie française. La partie française est devenue Haïti, quand Haïti a eu son indépendance. D'accord. Donc, vous voyez, tout est prévu. Et ensuite, et d'ailleurs, à cette époque-là, Bossuet, hein, le grand Bossuet, dira comme ça que par la bouche de saint Paul, le Saint-Esprit ordonne aux esclaves de demeurer en leur état et n'oblige point de les affranchir. Vous voyez, donc c'était un système. Tout le monde était d'accord avec ce système. Alors pourquoi Bossuet parle de saint Paul? Parce que saint Paul, saint Paul, c'est pas saint Jean. Hein. Ça pose un problème, étant donné que avec saint Paul, il y a le devoir d'obéissance absolue à l'autorité, puisque toute autorité vient de Dieu. Ça pose un énorme problème et il faut dire que ça a rendu silencieux durant des siècles beaucoup de gens. Et ensuite, il y a eu le second code noir sous Louis XV en 1724. Et lui, il est plutôt lié à la Louisiane. Vous voyez ? Donc pour la Louisiane, il fallait un nouveau code noir qui est sensiblement le même que le premier. Hein, il enfonce le clou. Il enfonce le clou notamment que pour la première fois, dans le premier, c'est latent, mais ce n'est pas dit ouvertement. Dans le second, c'est dit ouvertement, on parle d'être inférieur. Mmh. Oui. Les notions, ces notions de race inférieure, puisque le mot race est arrivé durant la Renaissance, donc de race inférieure, de race supérieure, de sous-homme pour les esclaves, sont arrivées à toutes ces époques. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de contemporain du XXe siècle, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Donc voilà. Alors, vous m'arrêtez hein, s'il y a une question qui vous chiffonne. Donc, on est dans tous ces systèmes. Alors, la France, naturellement, tire des richesses considérables. On peut dire qu'à cette époque-là, une grande partie de la richesse de la France se fait avec ses colonies aux Antilles, et notamment de Saint-Domingue, qui est vraiment, on l'appelle la belle colonie d'ailleurs. D'accord ? Et alors, la traite négrière, qui est quand même connue, les gens l'ont quand même un petit peu appris, hein, le fameux triangle, le commerce triangulaire, c'est quand même connu, sans aller dans les détails, bien sûr, se fait à partir des ports comme Le Havre, Rouen, Nantes, qui est le plus grand, Nantes, La Rochelle, Bordeaux. D'accord ? Voilà. D'ailleurs, à Nantes, il y a désormais un mémorial. Un mémorial sur l'esclavage qui a été inauguré l'an dernier. C'est le seul qu'il y a en France. Hein. Il paraît qu'il est superbe. Alors voilà. Donc de Louis XIV et de toute cette époque, eh bien on arrive au siècle des Lumières. Alors grande question. Et puis il y a toujours des surprises et des choses qui chiffonnent quoi. Hein. Parce qu'il y a différents personnages. Il y a ceux qui en tirent parti, parce qu'ils sont inclus dans la traite négrière et ou dans l'esclavage. Il y a ceux qui le déplorent. Alors, ceux qui le déplorent, on va dire, il y a Montesquieu, Diderot, mais ils n'agissent pas, ils le déplorent. Il y a ceux qui critiquent, quand même, ouvertement, comme Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social. Et il y a ceux qui le combattent, mais qui combattent ouvertement. Et durant toute leur vie, c'est Condorcet. C'est les abbés Bergier, Rénal et puis Grégoire. Voilà. Ce sont des personnages très, très importants. Condorcet et Bergier, d'ailleurs, Le président Mitterrand les a fait rentrer au Panthéon, d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc, c'est des gens qui ont vraiment toute leur vie, ils ont combattu, et ce n'était pas du tout facile, hein. Pas du tout facile contre les idées reçues, et ainsi de suite. Si les gens sont intéressés, ils veulent véritablement avoir une idée en profondeur de cette époque et de tout ce que ça pouvait inclure, eh bien, il faut lire le fameux livre de Condorcet sur réflexion sur l'esclavage des nègres. Voilà, on le trouve facilement. Mmh. C'est le livre à lire. C'est le livre capital. Voilà. Alors, naturellement, parfois, on peut tomber de haut, hein. Naturellement, par exemple, on prend Montesquieu dans l'esprit des lois. C'est quand même quelque chose, Montesquieu, pour la France, hein. Et c'est un grand monsieur. Et il a résumé tout en une phrase, si on peut dire. Quand il dit comme ça, « Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux des Amériques, ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. » Oui, tout est dit, hein, là-dedans. Mmh. Mais, alors, il y a quand même eu quelque chose de bien avec Montesquieu. C'est que tout d'un coup, il a réveillé dans l'opinion un sentiment hostile quand même. Il y a eu, ça a été le début quand même. Ça a commencé à remuer. Ça, c'est vraiment capital. Mais par contre, eh bien, c'était dans le système. Et il est vrai que, enfin, moi, je me suis toujours posé la question, comme d'autres personnes. On se dit toujours, mais nous, si on avait vécu à cette époque-là, comment on aurait réagi? On ne sait pas. On aurait peut-être trouvé ça bien. Parce que quand on vit dans un système et qu'on le subit, eh bien, c'est pas évident. On ne sait jamais. Celui qui me dit, ah ben moi, non, j'aurais jamais fait ça. Ça, on ne sait pas. Bien sûr, actuellement, c'est sûr. Mais vivant à cette époque, subissant un système, comment on aurait réagi, je ne sais pas. Alors, par exemple, Condorcet, bah, qui était vraiment pris dans le mouvement, eh bien, comment dirais-je, eh bien, il donne des conseils pour maintenir l'esclavage. Il parle de pitié, de miséricorde. Il dit, il faut moins de violence, mais pour que les choses restent, voyez-vous.
Améliorer l'esclavage.
Voilà. Et il est tombé malheureusement, et c'est resté dans le mythe de la paresse. Je ne vais pas vous énumérer ce qu'il dit, mais ce mythe de la paresse envers les Noirs date de cette époque-là. Mmh. Enfin, voilà. Donc, je vous ai parlé de Diderot, de Rousseau, et ainsi de suite, l'abbé Grégoire et tout. Voilà. Alors, l'abbé Grégoire Rénal, formidable, parce que Rénal disait des colons que c'était des barbares, hein. Il a eu une critique féroce contre ce qu'il nommait un scandale politique, les colons barbares. Il parlait du droit à l'insurrection. Droit à l'insurrection. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les esclaves noirs se sont insurgés en 1791. Parce que, naturellement, tout d'un coup, ils étaient français. Hein. Enfin, français, ils n'étaient pas français, ils étaient esclaves. Mais enfin, c'était une colonie française. Ils ont vu la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ils s'attendaient à quelque chose. Or, il n'y avait rien de prévu pour les noirs et les esclaves. Mais rien de rien. Donc, il y a eu ça. Et donc, c'est ce qui a permis ensuite, 3 ans après, aux abolitionnistes d'arriver à faire la première abolition de l'esclavage, qui est totalement inconnue. Alors là, je vous garantis que chez les lycéens, ils ne connaissent pas. Ils connaissent l'abolition de l'esclavage par Victor Schoeffer de 1848, mais la première abolition de 1791... février 91, ils ne connaissent pas du tout. Alors, naturellement, c'est très gênant. C'est très gênant, comme parfois je disais à des professeurs. En posant des questions aux lycéens, en leur posant des questions, automatiquement, et les plus marioles, ils vous répondent « Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux ?»« Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre deux ?» Vous êtes obligé de dire une certaine vérité historique. Et vous êtes obligé, naturellement, de rappeler le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte. Alors, naturellement, là, on repart sur une autre histoire très complexe, épouvantable, parce que, naturellement, on peut estimer que ceux qui maintenaient l'esclavage, qui étaient pour l'esclavage, c'est une chose, mais ceux qui ont rétabli l'esclavage, alors là, c'est, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. voyez-vous, c'est absolument l'ignominie totale. D'autant que Napoléon Bonaparte a déclenché une guerre pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue de 1801 à 1803, où son armée a été complètement défaite d'ailleurs. 37 000 hommes ont disparu, il n'y a eu que 2 000 rescapés. Et c'est là que Haïti est devenue indépendante le 1er janvier 1804. Cette armée était commandée par Leclerc, puis pour Rochambeau. Ce qui s'est passé là-bas, c'est une véritable honte de notre histoire, parce que c'était l'extermination de populations entières. On ne savait plus comment tuer, se débarrasser des prisonniers, par noyade et ainsi de suite et tout. Et puis c'est là où on trouve... Moi, j'ai posé la question à des professeurs de l'université Antilles-Guyane pour savoir, historiquement, si on pouvait dire que les étouffoirs, à ce qui allait devenir Haïti, étaient les premières chambres à gaz de l'histoire moderne. Ils m'ont dit certainement. Il n'y a pas eu de recherche approfondie, mais on n'en connaît pas. L'Angleterre ne l'avait pas fait. L'Espagne non plus, et ainsi de suite. On n'a pas d'histoire comme ça. Donc, effectivement, Leclerc avait fait un système sur des navires ancrés en rade où on mettait tous les prisonniers en fond de cale et puis on faisait brûler du soufre et ils mouraient jusqu'à étouffement. Et on a appelé ça les étouffoirs. Mmh. Donc voilà, vous voyez jusqu'où ça a été cette reconquête pour rétablir l'esclavage. Il y a eu aussi une guerre en Guadeloupe aussi, qui a été terrible, mais qui n'a pas duré longtemps, sauf que les rebelles sont restés des années dans les montagnes, mais elle a duré un an. Bon, ça a été quand même, ça a été terrible. Hein. Les milliers de morts, on les connaît pas, mais enfin, c'est environ un dixième de la population qui a été exterminée et qui s'est finie par le suicide du colonel Desgrelles, dont le président Hollande a parlé dernièrement dans son discours pour la commémoration de l'esclavage. Il s'est suicidé avec les 400 derniers hommes de l'armée coloniale dont il dirigeait, enfin commandait une partie. Cette armée coloniale qui avait d'ailleurs chassé les Anglais de différentes îles des Antilles et de Guadeloupe en 1794. Voilà. Donc voilà, ils ont préféré le suicide que de redevenir esclave, avec ce mot d'ordre de vivre libre ou mourir. C'est un mot d'ordre qui est connu. Et tous les rescapés, tous ceux qui avaient été libres, tous les Noirs qui avaient connu donc 8 ans de liberté entre 1794 et 1802, eh ben pour la plupart, ont été remis en esclavage ou ils ont été déportés et vendus soit aux Anglais et principalement aux Espagnols dans toutes les Antilles. Donc, double peine. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Je crois que le temps passe maintenant.
Le temps passe beaucoup.
Alors, on pourrait en parler très très longtemps, et c'est vrai que ça remet des choses en question énormes qu'il faut prendre en compte. Hein. Et vous voyez, ces lycéens, par exemple, à la question qu'on leur a posée durant le siècle des Lumières, parce qu'ils voulaient parler, le professeur voulait parler d'esclavage au siècle des Lumières en plus. On leur a posé, vous connaissez des abolitionnistes de cette époque? Eh bien, malheureusement, ils ne connaissaient pas Condorcet, ils ne connaissaient pas un tas de gens comme ça, et ils nous ont cité Voltaire. Alors, on est toujours dans le mythe de Voltaire. On est non seulement dans le mythe napoléonien, mais dans le mythe de Voltaire. Voltaire, d'accord, par ailleurs, ça peut être un grand bonhomme, mais enfin, Voltaire, ça a quand même été un homme d'affaires, un spéculateur, et il a eu une partie de sa richesse de la traite négrière, avec les armateurs de Nantes. Il avait d'ailleurs affrété un navire qui s'appelait le Congo. Et alors Voltaire a été... C'est un problème chez lui, parce qu'il a été... Il était épouvantable. Il a d'ailleurs sans arrêt fait une relation entre nègres et animaux dans tous ses écrits. Je ne vais pas vous raconter ça, parce que ça vous fait dresser les cheveux sur la tête, hein, d'une part, qu'un homme comme ça ait pu écrire ça. Mais c'est la vérité. Et d'ailleurs... l'abbé Grégoire qui avait dit comme ça de Voltaire, Voltaire aurait peut-être défendu un juif s'il avait été attaqué par un noir. Ça veut dire que c'était un être profondément antisémite et d'un racisme envers les Noirs, quelque chose de consommé. D'ailleurs, Victor Hugo n'a pas été plus tendre avec Voltaire aussi. Mm-hmm. Voilà. On peut peut-être conclure.
Oui.
Par cette vérité dérangeante.
Ah ouais. D'où vient cette... Vous n'êtes pas historien
Ah non, absolument pas.
C'était...
Mais bon, j'ai eu... C'est-à-dire que bon, je me suis toujours un peu passionné par l'histoire, mais justement, grâce ou j'en sais pas, à cause des droits de l'homme, justement. Hein, voilà. Et puis, c'est quelque chose qui m'a titillé quand même un peu, cet esclavage et tout. Je connaissais, même avant de vivre aux Antilles, je connaissais le problème avec Bonaparte. Bon, et puis quand je suis arrivé là-bas, bah, avec justement Amnesty International, j'ai eu la chance, puis par mon travail aussi, de me mettre à discuter avec des professeurs, quoi, des professeurs de cette université anti-Guyane, et puis de plus en plus avec Amnesty International. D'autant qu'il y a quelques professeurs, des agrégés d'histoire, qui par ailleurs ont été ou sont aussi professeurs d'université américaine. Donc, bon, c'est des pointures, quoi, quand même. Quoi.
Aujourd'hui, vous continuez d'aller auprès des lycéens ?
On continue. On ne l'a fait qu'une fois,
avec Amnesty.
Mais ça se refera. Les professeurs ont été satisfaits. Et puis, le retour... qu'ils ont eu des lycéens, ben les lycéens leur ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses. Alors ça se refera, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que nous, on ne veut pas enfoncer les portes. Hein. Les gens demandent, on y va, quoi. Hein. Voilà.
Oui, on peut d'ailleurs lancer un appel à la radio. Hein,
oui.
Si des professeurs sont intéressés par des problèmes de droits humains, ils peuvent faire appel au groupe dinois d'Amnesty International. Il y a aussi un groupe à Manos et à Barcelonnette. Mmh. Donc on est habilité... Hein, par l'éducation nationale pour intervenir dans les classes sur ces sujets.
D'accord. Eh bien, je vous remercie. Donc, Pierre Souhaité,
ben, merci, vous à vous,
membre d'Amnesty International, pour votre intervention, et bien sûr Régis Coulanges. Vous savez qu'on retrouve toutes les émissions pour la dignité en ligne sur notre site fréquencemistral.net. Et on se retrouve quand ? Régis.
Là, on va faire
une pause pour l'été.
Pour l'été,
et puis
oui.
On se retrouve en septembre.
Et on se retrouve, en septembre.
Oui, le dernier lundi de septembre, cette fois. On va essayer de respecter. Ce sera donc le lundi à partir de 16h30, cette émission mensuelle pour la dignité. Merci à tous et à bientôt.
Merci.
On va écouter donc cette chanson.
Amazing Grace.
Merci Marie-Claire, membre d'Amnesty, qui est venue aussi assister à l'émission. Et on écoute Amazing Grace tout de suite. Au revoir.
Alors, je voulais juste vous préciser que cette mélodie est devenue l'hymne des défenseurs de la liberté et des droits de l'homme, toutes religions confondues. C'est aussi l'hymne national des Indiens Cherokee.
Merci Marie-Claire et bonne soirée et à bientôt sur notre antenne pour continuer à nous parler d'Amnesty et de ses actions. Au revoir.
Merci.